Pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf. Première cassette, deuxième face, page 26. John se leva. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Le vieux lui paraissait bizarre. Il était peut-être malade. Il se décida enfin à retourner aux maisons pour prévenir Hassel. Quand il s'approcha de la baraque du radio, Hassel en sortait un papier à la main. « Il y a un télégramme, John. Un trappeur du petit village d'Utililik, U-T-I-L-I-L-I-K, a eu un accident de chasse. Il faut prendre le Piper Cub et aller le chercher. L'avion ambulance d'Anchorage est déjà prévenu, mais il ne peut pas atterrir à Utililik. Le terrain est trop petit. Il se posera ici. L'homme est déjà installé sur un brancard. Il sera difficile de l'installer dans le Piper. Attends-toi à être un peu à l'étroit pendant le chemin du retour. » John voulut parler de sa rencontre avec le vieil Indien, mais il n'en fit rien. Hassel aurait sans doute trouvé cela tout naturel. Ils sortirent le Piper Cub, un petit monomoteur léger, et Hassel apporta une carte pour indiquer le chemin. « Tu suivras le fleuve tout droit vers le sud pendant 40 minutes environ. Tu arriveras près d'une montagne escarpée sur la rive gauche. Là, tu changeras de cap pour survoler vers le sud-est une large rivière qui débouche juste en face de la montagne. Utililik se trouve à l'autre bout de la rivière, au bord du lac. Tu ne peux pas te tromper. Le terrain est mauvais, rempli de pierres et de mottes de terre. Descends le zinc aussi doucement que possible pour ne pas casser le train d'atterrissage. Bonne chance. » John sauta sur le siège du pilote et attacha sa ceinture. À côté du Junker, le Piper Cub n'était qu'un moustique. Il donna les gaz et longea bientôt le fleuve sur lequel se balançaient quelques canoës de peau rouge. C'étaient là les seuls signes de vie dans cette nature désolée comme un paysage lunaire. Le ronronnement du moteur produisait sur lui un effet soporifique. Le Piper Cub est un vélomoteur de l'air, songeait-il, un petit avion pratique capable d'atterrir presque n'importe où. Mais comment y placer un brancard? Il ne semblait pas du tout construit pour cet usage. La question était de savoir si lui, John, serait en mesure de se faire assez petit. Lorsque c'est une question de vie ou de mort, rien ne doit être impossible. Il regarda sa montre. 20 minutes s'étaient écoulées depuis le départ. Il était donc à mi-chemin de l'endroit où il devait obliquer. Volant à 300 mètres d'altitude, et à la vitesse de 140 km/h, il passa au-dessus d'un triangle de grues que le bruit du moteur ne fit pas dévier d'un centimètre. Leurs ailes battaient à un rythme que rien ne pouvait troubler. John en éprouva une grande joie. Jamais auparavant, il n'avait ressenti une impression semblable. Ce n'était pas la griserie de la vitesse, mais quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconcevable pour un esprit habitué à mesurer l'existence en km/h et à ne rien connaître d'autre. À l'horizon, des nuages montaient du sud. John, tout à ses impressions nouvelles, n'y avait pas pris garde. Il réalisa soudain que le temps tournait à l'orage. Prenant les écouteurs, il se mit en liaison avec Hassel. « Donne-moi le temps, vieux filou !» John trouvait qu'il avait pris le ton qui convenait. Dans un pays aussi perdu, on peut se permettre des appels de radio un peu plus libres. « Ah, j'attendais justement que tu me donnes de tes nouvelles, John. On dirait que le temps se gâte. Une basse pression arrive du sud. Elle réplique à toute allure, rapide comme une belette. Prépare-toi à un vent de plus en plus fort, peut-être à de vrais tourbillons, et ensuite à de la pluie. Mais tu arriveras probablement à Utililik avant. Je ne crois pas que le temps va se boucher complètement. Aussi trouveras-tu facilement le chemin de retour. » Mais ne reste pas trop longtemps au sol. L'avion ambulance sera là dans une demi-heure. » John débrancha la radio et donna plus de gaz. La barrière de nuages qui avait caché le soleil se dressait maintenant, sombre et menaçante, au-dessus des montagnes. Le Piper se mit à bondir et à se cabrer. Les coups de vent dessinaient des risées noires sur l'eau de la rivière. Il trouva aisément la bifurcation. Ayant le vent de côté, le Piper roulait plus encore. Le lac surgit juste au moment où les premières gouttes de pluie frappaient les vitres de la carlingue. Vu d'en haut, les cinq petites maisons du Tililic ressemblaient à des mottes de terre. John n'apercevait aucun terrain d'atterrissage. Descendu à 100 mètres, il découvrit enfin quelques personnes qui semblaient attendre dans le lit desséché d'une rivière. Voilà donc, pensa-t-il, le seul terrain possible pour le trafic aérien du Tililic. Il aurait certainement mieux valu descendre sur le lac avec le CB. À la seconde suivante, il changea d'avis, car des pierres pointaient hors de l'eau, aussi serrées que les piquants d'un hérisson. John tourna trois fois au-dessus du petit terrain, avant d'oser, avec une prudence de vieille fille, se poser dans le sillon pierreux. Le pipeur rebondit comme une sauterelle sur les aspérités de la piste. Quand enfin il s'arrêta, John poussa un soupir de soulagement. L'avion ne semblait pas avoir trop souffert des secousses. Quelques Indiens, enveloppés de couvertures grises, venaient à sa rencontre. Ils lui indiquèrent une grotte dans laquelle l'accidenté reposait sur un brancard confectionné avec des raquettes. C'était un homme d'un certain âge, aux moustaches grises, très fournies. Son regard, terni par la fièvre, errait de l'un à l'autre et il gémissait doucement. « Il s'est tiré un coup de fusil ici !» chuchota un Indien en montrant son ventre. John s'accroupit à côté du brancard et parla doucement au blessé qui ne répondit que par un murmure. Les Indiens soulevèrent le brancard et le portèrent lentement vers l'avion. À chaque mouvement trop brusque, les plaintes du blessé se transformaient en cris sauvages. Il ne fut pas facile non plus de placer le brancard dans l'avion. Enfin, gazé et bien arrimé, il prenait presque toute la place. John préférait avoir la tête du blessé à l'avant pour le calmer s'il souffrait trop. Aussi se glissa-t-il avec beaucoup de mal à la place du pilote, puis il démarra. Une pluie battante mêlée de neige enveloppait l'avion quand John donna les gaz. Si l'atterrissage avait été difficile, le décollage le fut bien davantage. Des coups de vent plaquaient l'avion au sol chaque fois qu'il essayait de s'élever. John dut s'y reprendre à trois fois avant de réussir à décoller. Le blessé ne gémissait plus. Ayant perdu connaissance, il était dans une bienheureuse ignorance de toutes les difficultés du départ. John s'appliquait à voler bas afin de ne pas perdre de vue le sol. De lourds voiles gris recouvraient les hauteurs et l'avion faisait des embardées au milieu des rafales de pluie et de grêle. Il suivait le ruisseau à 50 mètres d'altitude à peine. Les sapins pointus défilaient à toute allure comme de sombres sentinelles. John était recroquevillé, les coudes serrés. Il lui était difficile de manœuvrer le manche et de parer à la violence du vent. Le fleuve surgit devant lui. Le vent arrière secouait l'avion en tous sens. L'eau paraissait noire et menaçante. Mais John était sûr de retrouver son chemin. Il serait à McGrath dans moins d'une demi-heure. « Allô, McGrath, allô, McGrath, me voici, j'arrive, tu m'entends ?»« Allô, allô, John, nous t'attendons. C'est vraiment pas un temps pour sortir. Les autres sont rentrés, l'ambulance est là. Comment va le blessé ?»« Il n'est pas brillant, je crois qu'il commence à se réveiller, j'arrive. » Le blessé avait ouvert les yeux et geignait sourdement. Où suis-je ? Murmura-t-il. En route pour l'hôpital, dans un avion, répondit John. Pas en danger. Tu vas t'en sortir, tu verras. Ça fait mal, gémit le vieux trappeur en se tordant sur le brancard. Essaie de rester tranquille, dit John. Immobile, tu auras moins mal. John eut conscience de son impuissance. Il ne pouvait rien faire pour adoucir les souffrances de ce pauvre homme. Les paroles étaient d'un piètre secours. Il fallait se concentrer pour conduire le blessé le plus vite possible à l'ambulance. C'est tout ce qui était en son pouvoir. Il mit le moteur plein gaz, gagnant ainsi quelques secondes. Le malade, maintenant très agité, marmonnait des mots incohérents. Brusquement, il se tourna sur le côté et tomba de tout son poids sur le pilote. John, qui se sentant coincé contre la porte avait dû lâcher le manche pour se maintenir, eut soudain conscience que la porte s'était ouverte. Une seconde, sa main battit le vide. Mais la ceinture de sûreté le retenait et il retrouva son équilibre. Le blessé lançait des coups de poing à la volée et John les parait à grand-peine. La porte battait comme une aile géante. Brusquement, elle se détacha et fit une grande déchirure dans l'aile. L'avion s'inclina et commença à perdre de l'altitude. Avec l'énergie du désespoir, John tira des deux mains sur le manche et réussit à éviter une descente en vrille. L'appareil s'inclinait toujours dangereusement, se maintenant à grand-peine à une vingtaine de mètres au-dessus de l'eau sombre. Le blessé s'était un peu calmé, mais il pesait toujours de tout son poids sur la tête et les épaules de John, qui était incapable de le remettre sur le brancard. John était obligé de se servir de ses deux mains pour maîtriser l'avion et essayer de reprendre de l'altitude. Avec son coude, il brancha la radio et se pencha sur le micro. « Allô, McGrath ?» gémit-il. « Ça ne va pas du tout. Je ne pourrai pas tenir le zinc bien longtemps. »« allô, John. Que s'est-il passé? À toi. La porte s'est décrochée. Elle a fait un trou dans l'aile et bousillé le gouvernail latéral. » J'ai peur de descendre en vrille à chaque instant. J'ai le trappeur qui me pèse sur le dos comme une masse de plomb. Je n'en peux plus, Hassel. Ne perds pas la tête, John. Essaye de monter contre le vent. Vire à droite si l'aile gauche est abîmée. Tu es toujours au-dessus du fleuve? Bon, atterris sur la rive gauche. Tu vois les bancs de sable? Pose ton zinc le plus près possible de l'eau. Nous serons là avec le CB dans quelques minutes. Alan est ici, il part tout de suite. Surtout, ne perds pas la tête. Tout s'arrangera, John. John appuya lentement le manche vers la droite. Il eut du mal à lever la tête suffisamment haut pour regarder à travers la vitre. Le Piper vacillait et le paysage pluvieux dansait devant ses yeux. Doucement, très doucement, John redressa l'avion contre le vent. Là-bas, à une trentaine de mètres seulement au-dessous de lui, se trouvait la rive gauche avec ses bancs de sable. John eut brusquement un terrible malaise. Il faillit vomir. Il sentait le trappeur gémir derrière sa nuque. Tout se passait comme dans un cauchemar, le plus sombre des cauchemars. Il poussa de toutes ses forces le manche en avant. Ses mains et ses bras tremblaient, ses épaules sans qu'il osait. Jamais il ne s'était trouvé dans une situation semblable. Sa carrière d'aviateur militaire avait été d'un calme étonnant. Aucune sensation de danger. Un seul atterrissage forcé, son train n'ayant pas voulu sortir. Mais c'était sur une pelouse toute lisse, et ni lui ni l'avion n'en avaient souffert. Cette fois-ci, il avait peur. Descendant vers le banc de sable luisant debout, il réduisit les gaz au minimum. L'angoisse le gagnait. Il ne put retenir un sanglot. Une vague de désespoir montait en lui. Il ne voulait pas mourir de cette façon, enfermé, et voir cette sale terre s'approcher sans pouvoir respirer, sans pouvoir protester. Il était révolté. À quoi bon prolonger la torture, être déchiqueté petit à petit dans une prison de tôle qui tourne sur elle-même et ensuite broyé dans l'horreur et l'épouvante? Ne valait-il pas mieux donner plein gaz et foncer pour percuter le sol? Il n'y aurait alors ni angoisse ni souffrance. Mais tout à coup, tout se transforma. La frayeur s'était évanouie. Il n'avait plus peur. Trêve de sanglots, de désespoir et d'idées noires. Une voix lui parvenait. Une voix basse et mélodieuse, calme et réconfortante. C'était son nom.
Allô, John. Allô, John. Plus de mouvements brusques maintenant. Tu feras un atterrissage tout à fait normal, John. Arrête le moteur avant de toucher le sol. Attention à l'aile gauche, John. Ne la laisse pas plonger. Pas trop. Braque le manche à droite quand tu toucheras le sol. Aussi loin que possible à droite. N'aie pas peur. C'est un atterrissage tout à fait normal. Je mets la cafetière sur le feu pour qu'elle ait le temps de se chauffer avant que tu rentres.
John ne put pas s'empêcher de sourire. Ah, oncle Joseph, avec son éternelle cafetière.
Pas de mouvement brusque, John. Arrête le moteur, redresse, regarde l'aile gauche, voici le banc de sable. Doux, fin, lisse, l'aile gauche à la hauteur de l'eau, le manche à droite, encore un peu, doucement, doucement, comme atterrit un canard. Un atterrissage tout à fait normal, voilà ce que c'était. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. John se pinça le bras. Était-ce vrai ? L'avion s'était arrêté. Il s'était posé sur le banc de sable exactement comme doit le faire un avion. Il avait réussi. Il avait réussi l'impossible. Il n'avait ni chaviré, ni fait une descente en vrille. Inimaginable, irréel, comme dans un rêve. Il réussit à remettre le trappeur sur un brancard. Le vieux était sans connaissance et marmonnait faiblement. Quel soulagement de se sentir libéré de ce terrible poids! John sauta de l'appareil et jeta un coup d'œil sur l'aile. Il y avait un grand trou et le gouvernail était de travers. L'appareil ne semblait pas avoir d'autres dégâts. La pluie rafraîchissait John et l'air était frais. Il enleva sa veste de cuir et l'étendit sur le trappeur. Il partit ensuite au pas de course pour se réchauffer et ramasser des pierres afin de caler les roues du Piper. Il terminait quand le CB, surgissant de la grisaille, amorça un virage et un mairie. Quelques minutes plus tard, le brancard avait changé d'avion et John, assis à côté d'Alan, trouvait qu'il était bon de ne plus tenir un manche pendant quelque temps. « J'ai eu un peu de mal à atterrir, » dit-il pour entamer la conversation. Rien sur le visage d'Alan ne révélait qu'il eût entendu. Son silence bourru semblait être de la même espèce que la nature aride qui s'étendait au-dessous d'eux. John regardait Alan. Il arriverait quand même à lui faire ouvrir la bouche. Alan était très calme. Finalement, il toussa et émit sèchement. « Bien sûr, il nous arrive parfois de petites mésaventures ici en Alaska, mais on s'y habitue vite. » Par la suite, il ne fut plus jamais question de cet atterrissage mouvementé. L'avion ambulance transporta le trappeur à l'hôpital d'Anchorage. Le lendemain, Island Wheeler rejoignit le Piper en bateau amateur et le répara. À peine 2 heures de travail. Mais il fallut faire venir une nouvelle porte d'Anchorage. Après cette aventure, John ne fut plus tout à fait le même homme. Il était devenu plus bourru, plus viril en quelque sorte. Et chaque fois qu'il entendait parler d'un événement dramatique, il prenait un air sentencieux et disait sèchement « Bien sûr, il arrive parfois de petites mésaventures ici en Alaska, mais on s'y habitue vite. » Et chose extraordinaire, même Alan esquissait alors un sourire. La forêt brûle. Cette année-là, l'été fut tardif en Alaska. Tantôt il pleuvait, tantôt il neigeait, et les lacs de montagne n'étaient pas débarrassés de leur glace au milieu de juin. Joseph Grumman avait dû remettre à plus tard le transport du minerai, et John, lui, transportait de l'essence aux stations missionnaires de la côte en attendant un temps plus clément. C'était un travail un peu ennuyeux, mais un excellent entraînement pour décoller et atterrir sur de mauvais terrains et par tous les temps. Le dimanche 17 juillet, la chaleur arriva, et fort à propos, car c'était le jour où la cuisinière Viola Swanson se mariait avec le patron de la boutique, Barter Hayes. Tout McGrath était en fête. Les hommes portaient des chemises écossaises de chercheurs d'or et de vieux chapeaux haute forme. Joseph Grumman avait mis un smoking trop étroit, retrouvé au fond d'une valise. Il avait grande allure avec sa barbe rousse qui lui couvrait la poitrine, telle une cravate géante. Un pasteur était venu, c'était un petit bonhomme aux joues rouges qui portait des lunettes. Il était arrivé d'Anchorage par l'avion du courrier, en compagnie du trappeur d'Utililik que John avait conduit à l'avion ambulance quelques semaines auparavant. Le trappeur se portait tout à fait bien maintenant, il ne manquait pas une occasion de retrousser son chandail pour montrer sa cicatrice et tout le monde regardait avec intérêt. « Le Toubib a trouvé 68 plombs !» criait-il triomphalement. « Les deux coups de fusil sont partis en même temps. Mais c'est quand même plus qu'on en trouve dans deux cartouches. Je devais
en avoir déjà quelques-uns en naissant.
Oh, on a peut-être tiré une salve en ton honneur le jour de ton baptême,
grommela Joseph Grumman, qui trouvait la plaisanterie très bonne et fut pris d'un interminable fou rire. Le mariage devait avoir lieu dans le hangar numéro 1 à 2 heures précises. Ce hangar était la plus grande salle de réunion de McGrath. On l'avait garni de bouleaux verts et on avait fabriqué un hôtel avec 2 vieux flotteurs d'avion. Une hélice à large pale était placée au bas de l'hôtel pour que les mariés s'agenouillassent dessus. C'était une idée de Hassel. Il savait combien il est douloureux de s'agenouiller sur une hélice. Il avait voulu se venger de Hayes, qui cette année-là avait fait crédit avec difficulté. Une bande de chercheurs d'or arriva sur un radeau. Ils lavaient le métal à quelques dizaines de kilomètres en amont du fleuve. La saison ayant été bonne, ils avaient les poches bourrées de poudre d'or. Pendant tout le trajet, ils avaient bu du whisky, des quantités de whisky, et ils vacillaient maintenant comme des poules étourdies. John était en train de se mettre sur son 31, autant que le lui permettait sa modeste garde-robe. Il n'avait pas prévu de vêtements pour un mariage. Un gros chandail islandais dut remplacer la chemise et la cravate. En l'honneur de cette cérémonie, il se rasa, et de ce fait, il dut coller ensuite du sparadrap un peu partout sur son menton. Highland Wheeler s'équipa en esquimau, pantalon et veste de phoque, des peaux claires et argentées de jeunes bêtes. Un motif fait de plaques sculptées dans des dents de morse ornait la veste. John n'avait jamais vu une élégance plus raffinée. « Où peut-on acheter un tel costume ? » demanda-t-il. Le visage d'Highland ne fut plus qu'un grand sourire. « Mes parents l'ont fait, » dit-il. « Mon père a tué les phoques et sculpté les plaques d'ivoire. Ma mère l'a ensuite cousu avec des tendons d'ours blanc. On ne peut pas acheter un costume pareil. Il faut que quelqu'un vous le fasse. Des parents ou peut-être une jeune fille. » Son sourire releva les coins de ses lèvres à la hauteur de ses oreilles. « Une jeune fille ? Ah ! » souffla John, « mais il n'y a pas de jeune fille en Alaska. Moi, du moins, je n'en ai jamais vu. Pas une qui soit jolie, en tout cas. Il paraît qu'il y a 12 de gars pour chaque fille. L'Alaska est un pays d'hommes. C'est là ma seule objection. Eh bien, tu devrais aller chez moi à Nome, N-O-M-E, sur le détroit de Bering, dit Highland. Là, il y a de jolies filles esquimaudes, capable de te faire un beau costume en peau de jeune phoque. Ouf, il y aura bien un jour un voyage de ce côté-là, soupira John. Si ce n'est pas avant, ce sera en tout cas quand les transports de minerais seront terminés. Mais crois-tu que nous sommes présentables maintenant ? Alan était en train de nouer sa cravate avec minutie. Il faisait et défaisait le nœud, grommelant quand il était trop mal fait. Finalement, il y renonça et se contenta d'un nœud coulant. Joseph Grumman arriva à grands pas. Il hurlait. « Mettez les médailles, les gars ! Il faut hisser tous les drapeaux !»« Il y a quelqu'un ici qui a des médailles ? Moi, j'en ai pas. » C'était John qui avait posé la question. « Oh, nous en avons en abondance, » grommela Joseph Grumman. « Il y a quelques dizaines d'années, nous avons fait la guerre. Bien sûr, toi, t'étais à peine né. » À ce moment-là, les médailles remplaçaient très souvent la nourriture. Aussi, nous en avons une boîte pleine. Où avez-vous mis la boîte, les gars ? À quatre pattes, Highland regardait sous les lits. Ah, c'est vrai, je l'ai mise dans l'entrée ce matin en rentrant de la pêche. Ça mordait surtout avec ta croix de guerre, chef. Nous nous servons des médailles comme à pas quand nous pêchons, dit Joseph. Nous limons un peu les bords et y accrochons des hameçons. Les poissons raffolent des croix de guerre, surtout de celles que nous avons gagnées pendant la guerre contre les Japonais. L'automne dernier, j'ai pris un saumon de 15 kilos avec le bout de métal que j'ai reçu après être monté à l'assaut d'Okinawa. Ils trouvèrent la boîte et l'on distribua les médailles usées par la lime et hérissées d'hameçons. On voulait en prêter quelques-unes à John, mais il refusa. Les gens croiraient que j'ai été un héros. « À l'âge du biberon, » dit-il avec ironie. L'heure de la cérémonie approchait. Les gens commençaient à se grouper autour du hangar. La table était déjà dressée sur la piste numéro 1. Mère Chigalutna, qui avait remplacé la cuisinière, faisait griller de grandes quantités de viande d'ours. Un frémissement parcourut l'assemblée. La mariée venait de sortir d'une baraque. De tous les déguisements, le sien était le plus réussi. Elle s'était fait une robe de mariée dans un parachute. Pour utiliser toute l'étoffe, elle avait confectionné une cage de fil de fer qui soutenait la jupe comme une crinoline. Dans ses cheveux, elle avait piqué un bouquet de fleurs en papier de sa fabrication. Son visage était enduit de fécule de pommes de terre et sa bouche peinte avec du vernis rouge pour avion. La traîne était magnifique. Elle avait 6 mètres de long et Hassel, vêtu d'un chandail et d'un pantalon bleu, la portait. Il sautait et gambadait sans se soucier le moins du monde du sérieux de l'événement. Une vieille casquette militaire était posée de travers sur son crâne dégarni. Hassel l'avait gardée depuis la guerre et il ne la sortait que dans les grandes occasions. Seul le marié portait un costume de circonstance. Il avait un habit beaucoup trop grand, certes, mais un habit. Il avait rasé sa barbe et son visage de bandit avait une expression plus douce. Il faisait les 100 pas devant le hangar, cherchant à cacher sa nervosité. De temps en temps, il sortait sa poche une fiasque de gnôle et avalait une gorgée en cachette. « Goutte pour les nerfs, fabrication maison », disait-on sur l'étiquette. Joseph Grumman frappa dans ses mains et hurla aux invités qu'il ne fallait pas rester là, mais essayer de former un cortège comme on doit le faire le jour d'un mariage. Ne sachant pas ce que signifiait le mot cortège, les invités se mirent à marcher sur les mains ou à faire des acrobaties, chacun selon ses dons. Le mot leur avait paru si étrange qu'ils se crurent obligés d'exécuter des gestes insolites. John sortit alors son harmonica et joua une marche nuptiale. Tout le monde comprit ce que cela voulait dire. Un cortège se forma, la mariée en tête, et l'on pénétra dans le hangar. Le petit pasteur s'y trouvait déjà. D'un geste, il indiqua à la mariée l'emplacement sur lequel elle devait s'agenouiller. Puis il monta solennellement vers l'autel. Viola Swanson tomba sur les genoux. Un arbre abattu par la tempête n'aurait pas fait plus de bruit. Un silence gêné s'établit. On attendait le marié que l'on n'avait pas vu dans le défilé. « Cours dehors et regarde si tu le vois !» chuchota Joseph Grumman à John. « Il devrait quand même comprendre qu'il faut être présent à son propre mariage. C'est la moindre des choses. » John dut chercher longtemps avant de trouver Barter Hayes. Il finit par le découvrir recroquevillé dans les broussailles, le visage blanc comme neige.
« J'ai terriblement mal au ventre, John. Il m'est impossible de me marier maintenant. Peut-être dans un moment, dans une demi-heure, mais pas maintenant. »
John dut retourner, porteur de ce message. La mariée bondit comme piquée par une guêpe.
« Il croit pouvoir s'esquiver, la canaille ? Ah, ça serait trop facile !» Faisons le repas de noces d'abord, la bénédiction aura lieu ensuite. Il aura le temps de se remettre et de remettre son pauvre ventre en état.
Tout le cortège s'installa autour de la table. Le mari restait dans les broussailles, spectateur de son propre repas de noces. Il ne pouvait pas sortir maintenant et se mettre à table après avoir honteusement esquivé la bénédiction.
Suis-je marié quand même ?
Demanda-t-il inquiet quand Joseph Grumman vint lui demander de ses nouvelles. Les mariages sont si rares en Alaska que personne ne sait exactement comment doit se dérouler la cérémonie. John se plaisait dans cette société hétéroclite. Il avait beaucoup changé depuis 6 semaines. Il n'était plus ce pâle étranger arrivé des États-Unis, plein de préjugés. Sa personnalité commençait à se dessiner. Il était presque devenu un véritable aviateur de brousse. Autour de la table régnait une ambiance extraordinaire. Il y avait à peu près 2 fois plus d'invités que d'assiettes, mais cela n'avait aucune importance. Assis sur les genoux les uns des autres, on servait avec les doigts. Les chercheurs d'or assaisonnaient le rôti d'ours avec leur poudre d'or. La mariée mangeait tout ce qu'elle pouvait atteindre. Le vernis rouge de ses lèvres commençait à fondre et à déborder vers le haut et vers le bas. Elle ressembla bientôt à un clown. Fin de la deuxième piste de la première cassette, page 45, pilote de l'Alaska par K.A. Schwarzkopf.